Nouvelle tentative pour l'élection du président du gouvernement, dont les membres sont convoqués à 14h cet après-midi. Alcide Ponga devrait être élu. L'homme qui a tué sa femme à Yaté d'un coup de couteau a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le procureur de la République était ce matin notre invité. Dans la région, après trois semaines, l'incendie qui a touché une partie du parc national des Grands Pions dans l'ouest du Victoria est désormais contenu. 80 000 hectares ont été touchés par les flammes. Jean-Marie Le Pen s'est éteint à l'âge de 96 ans. Il a incarné le visage de l'extrême droite française pendant plus de 60 ans. Sébastien Lecornu présente ses vœux aux Français. Le ministre des Armées salue leur engagement en Nouvelle-Calédonie et dénonce à son tour les ingérences de l'Azerbaïdjan. Et puis en sport, encore une journée difficile pour les tennismans français aux qualifications à l'Open d'Australie. Sur les 18 inscrits, ils ne sont plus que 8 en lice pour le second tour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les membres du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont donc convoqués à 14h par le haut-commissaire. Les 11 membres du nouvel exécutif ont été élus hier matin par les conseillers du Congrès, mais ils n'ont pas réussi à désigner leur président lors d'un premier tour de vote. La situation devrait se débloquer cet après-midi, Lionel Sabot.
Le rendez-vous est donc fixé en effet à 14h au siège du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les 11 membres élus, Alcide Ponga, Isabelle Chamorro, Christopher Gigès et Thierry Santa pour le Rassemblement Les Loyalistes, Gilbert Thuyénon, Michael Forest et Samuel Népéoun pour l'UCF, LNKS et Nationaliste, Adolphe Digoué et Claude Combet pour l'UNI, Jérémy Cartil-Jomonier pour Calédonie Ensemble et Pété Lossao pour l'Éveil Océanien se retrouveront donc pour une deuxième fois pour tenter d'élire le président de l'exécutif. Rappelons qu'hier, pour la première tentative et avant la démission de Philippe Dunoyer, les candidatures d'Alcide Ponga et de Samuel Népéoun avaient été déposées, mais aucun de ces deux candidats n'avait obtenu de majorité absolue. Alcide Ponga avait recueilli 4 voix sur son nom, Samuel Népéoun en avait recueilli 3. Aujourd'hui, et après les déclarations des uns et des autres intervenus hier au cours de la journée, les choses devraient être différentes et il semblerait que le président du 18e gouvernement sera bien élu en début d'après-midi. Ce midi, on est certain, ou presque, que la candidature d'Alcide Ponga sera proposée et on imagine, mais ce n'est pas encore certain, que celle de Samuel Népéoun le soit également. Si les choses se déroulent comme annoncé par les uns et les autres, Alcide Ponga devrait recueillir cet après-midi les 6 voix nécessaires à son élection, les 4 voix des membres de la liste Rassemblement les Loyalistes, mais aussi la voix de Jérémy Cartil-Jomonier de Calédonie Ensemble et celle de Pété Lossao pour l'Éveil Océanien. Si la candidature de Samuel Népéoun est présentée, elle devrait recueillir les voix des 3 membres des élus de la liste UCF, LNKS et Nationaliste. On ne sait pas quel sera le positionnement des 2 membres de la liste unie qui s'était, rappelons-le, abstenu hier matin. Une fois le président élu, les membres du 18e gouvernement devront, afin que le gouvernement soit déclaré de plein exercice, élire un vice-président. Si la tradition est respectée, ce poste devrait revenir, en cas d'élection d'Alcide Ponga, à un membre indépendantiste de l'exécutif. Mais ce midi, il est difficile de dire si cette élection d'un vice-président aura lieu dans quelques heures et de dire si c'est un membre de la liste UCF, LNKS et Nationaliste ou un membre de la liste unie qui pourrait obtenir le poste. Difficile de dire également comment se positionneront les membres des autres groupes politiques. Il est à noter que quoi qu'il arrive, vice-président ou pas, le gouvernement sera de plein exercice 7 jours après l'élection du président. La 3e étape de cette phase de renouvellement du gouvernement consistera à la répartition des secteurs entre les 11 membres du 18e gouvernement. Mais nous n'en sommes pas encore là.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse d'abord à la question d'hier et 52% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la composition du nouveau gouvernement élu hier va faciliter le travail institutionnel. Ils sont 48% à penser que ce ne sera pas le cas. Voici notre question du jour. Selon vous, le renforcement des contrôles routiers constatés ces dernières semaines est-il efficace pour lutter contre l'insécurité routière ? Si vous pensez que c'est le cas, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. L'actualité judiciaire maintenant avec les suites du drame familial qui s'est produit à Yaté le week-end dernier. Une femme avait été mortellement blessée par son conjoint à la tribu d'Ounia, Lionel.
Oui, ce matin, c'est le procureur de la République, Yves Dupas, le procureur de la République qui était notre invité à 7h30. Il nous a confirmé que l'auteur présumé des faits avait été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et placé en détention provisoire. Lors de sa garde à vue, l'auteur présumé a reconnu avoir porté un coup de couteau au cours d'une scène qui aurait été marquée par des violences réciproques au sein du couple. Selon ses déclarations, le mis en cause avait avait consommé une quantité importante d'alcool en début de soirée, tout comme la victime. Un fait divers qui met en lumière, nous expliquait Yves Dupas, une recrudescence des violences intrafamiliales.
Ces procédures s'étaient un peu réduites hein, pendant les événements, sous le double effet du couvre-feu et des restrictions de vente d'alcool. Mais on le voit bien, hein, au regard de notre activité depuis les dernières semaines, ces procédures, effectivement, se retrouvent, j'allais dire, dans un cours tristement normal, hein, dans l'activité du parquet, hein, avec cette alcoolisation qui vient caractériser 80% de nos procédures. 80%, c'est énorme.
Et pour lutter autant que faire se peut contre ce fléau en Calédonie des violences intrafamiliales, des outils ont été mis en place par la justice en lien avec les institutions.
Des stages de responsabilisation des auteurs de violences conjugales, hein, en partenariat avec la province sud et le service du relais. Et puis nous avons ouvert hein, le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales en décembre, donc piloté par l'ARAVIF. Et actuellement, nous avons trois auteurs présumés qui sont placés dans ce centre, hein, sous contrôle judiciaire. Vous voyez, des outils qui, effectivement, se développent hein, au fil des années, dans la ligne des actions du Grenelle, mais il est impératif que, sur ce territoire, ces violences insupportables se réduisent. Il faut impérativement contribuer à la lutte contre ces violences intrafamiliales.
Ce matin, avec le procureur de la République, nous sommes également revenus sur les suites judiciaires des émeutes qui ont débuté le 13 mai dernier. Yves Dupas qui a d'abord donné quelques chiffres.
Les événements depuis le 13 mai, c'est 2530 gardes à vue. C'est 502 personnes déférées. C'est 243 personnes incarcérées. 30 informations judiciaires ouvertes, soit pour des procédures criminelles, soit pour des procédures délictuelles complexes. La justice s'est adaptée, s'est mobilisée pour traiter dès les premiers événements donc ces procédures. Il nous reste un certain nombre de procédures, notamment en matière de vol, de recel de vol, hein, que nous continuons à traiter pour que chacun réponde de ses actes hein, dans une stratégie clairement définie au parquet.
Et nous avons également interrogé le procureur sur les propos tenus il y a quelques jours lors d'une séance au Congrès par Marilyn Sakilia. Cette dernière avait accusé publiquement certains chefs d'entreprise d'avoir volontairement incendié leurs entreprises. Écoutez à ce sujet Yves Dupas.
Et ces déclarations, effectivement, sont totalement inexactes. Hein. Mettre en cause des gérants de société de la sorte, c'est assez indigne. Ces propos relèvent de cette désinformation hein, qui aura quand même marqué le cours de cette crise insurrectionnelle. Cette désinformation, elle a pu peser aussi et alimenter des provocations, une agressivité renforcée hein, du côté des émeutiers, et c'est assez insupportable.
Mais est-ce que les auteurs de ces propos et de ces propos de désinformation pourraient éventuellement être poursuivis ?
Il y a toujours bien évidemment la place pour l'infraction de diffamation hein, par rapport à certains propos qui peuvent être tenus. Lorsqu'une élue avait soutenu que les forces de l'ordre tiraient sur les barrages en direction des enfants, moi j'avais été amené à recadrer ce type de situation et ce type de propos.
Le procureur de la République Yves Dupas, invité du matin sur Radio Rythme Bleu, interview que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet rrb.nc.
Et venons-en à l'actualité dans la région. Le feu qui a touché une partie du parc national des Grands Pions dans l'ouest du Victoria en Australie est désormais contenu en grande partie grâce à la pluie tombée ces derniers jours. 80 000 hectares ont été ravagés par les flammes. Mais une partie du parc va tout de même être réouverte au public. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
D'après les services d'urgence du Victoria, le feu a détruit 4 maisons, 42 hangars, une tour de télécommunication et un important matériel agricole. Il a également tué près de 800 moutons, ainsi que de nombreux animaux de boucherie, calciné près de 1300 ruches, 10 000 hectares de pâturage et 540 km de clôture. Les autorités ont toutefois annoncé que le petit village de Holsgap, qui est implanté en bordure du parc, sera rouvert au public dès aujourd'hui. Les endroits touristiques de la partie nord des Grands Pions, et que le feu a donc épargné, accueilleront à nouveau les visiteurs à partir de vendredi. Les autorités ont toutefois prévenu que l'ensemble du parc sera à nouveau fermé si les circonstances l'exigent. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h41 sur Radio Rythme Bleu. Une première pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité en métropole. Elle est dominée aujourd'hui évidemment par la disparition de Jean-Marie Le Pen. Il s'est éteint à l'âge de 96 ans la nuit dernière pour nous.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon, Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de ce journal avec l'actualité en métropole. Il était une figure incontournable de la vie politique française. Jean-Marie Le Pen s'est éteint la nuit dernière pour nous à l'âge de 96 ans. Revenons sur la longue carrière politique de celui qui était le cofondateur du Front National et dont l'un des faits d'armes sera son accession au second tour de la présidentielle en 2002. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Ce fut l'apogée de sa longue carrière politique. 21 avril 2002, 20h, Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle.
Estimation donc Ipsos, énorme surprise pour cette présidentielle. Premier tour 2002, Édouard Le Cerf, les chiffres.
Les chiffres, Jacques Chirac obtiendrait 20%. Derrière lui, Jean-Marie Le Pen obtiendrait 17% des voix.
C'est-à-dire qu'on se retrouve actuellement donc avec un tour, un deuxième tour, qui est Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen, ce qui est un bouleversement total dans la vie politique française.
Sa carrière politique, Jean-Marie Le Pen la débute dans les rangs poujadistes. Élu plus jeune député de l'Assemblée en 1956, il participe la même année à la guerre d'Algérie. 6 ans plus tard, il fonde le Front National, premier succès électoraux dans les années 80 et première provocation des durafours crématoires aux détails de l'histoire qui lui vaudront plusieurs condamnations en justice.
Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Préférence nationale et immigration zéro, le populisme version Le Pen s'enracine jusqu'à ce succès de 2002. La suite, c'est une défaite en 2007 et l'intronisation de sa fille à la tête du parti en 2011. Mais leur relation se dégrade sur fond de nouveaux dérapages. Le fondateur du FN en est exclu en 2015 et quitte la vie politique. En 2022, celui que l'on surnomme le menhir n'est pas convié aux 50 ans du parti. Il s'éteint sans jamais avoir vu sa famille politique accéder au pouvoir.
Et la disparition de Jean-Marie Le Pen a évidemment beaucoup fait réagir la classe politique nationale entre hommage du Rassemblement national ou vive critique sur les bancs de la gauche, Nicolas Legrand.
Oui, tout d'abord, la première réaction de la famille Le Pen. Marion Maréchal écrit un long hommage à son grand-père. « Pars tranquille, je n'abandonnerai pas la mission ». Fin de citation. Quant au président de la République, Emmanuel Macron, il a réagi dans un communiqué succinct en évoquant, je cite, « une figure historique de l'extrême droite dont le rôle dans la vie publique de notre pays pendant près de 70 ans relève désormais du jugement de l'histoire ». Un communiqué estampillé de l'Élysée. Jordan Bardella, lui, le président du Rassemblement national, rend hommage au fondateur de son mouvement. Il affirme que Jean-Marie Le Pen a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté. L'Élysée, donc, je le disais, donc, a réagi dans un communiqué. Le Premier ministre François Bayrou a rendu hommage à une figure de la politique française. Réaction de l'insoumise Marnon Aubry qui lui répond « Le respect pour les défunts ne doit pas conduire à la cécité sur son parcours. Il était un raciste, un antisémite notoire ». Fin de citation là aussi. Et Jean-Luc Mélenchon écrit que malgré la mort de Jean-Marie Le Pen, le combat contre la haine, le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme continue.
Jean-Marie Le Pen a passé le flambeau au terme de sa vie politique à sa fille, devenue aujourd'hui la chef de file du Rassemblement National. le père et la fille qui ont entretenu des relations complexes. Arthur Delaborde pour Europe 1.
C'est encouragé par son père et dans son ombre que Marine Le Pen se lance en politique à la fin des années 90. Elle s'impose peu à peu comme la lieutenante de Jean-Marie Le Pen. Et après sa qualification au second tour de la présidentielle de 2002, le menhir pousse sa fille à prendre la lumière dans les médias. Elle devient alors une figure incontournable du FN jusqu'au tournant de 2011, date à laquelle elle succède à Jean-Marie Le Pen à la tête du parti, transition synonyme de rupture. Marine Le Pen lance la fameuse normalisation du mouvement pour en faire un outil de conquête du pouvoir. Jean-Marie Le Pen, lui, multiplie les provocations et les dérapages embarrassants pour sa fille, à tel point qu'en 2015, il est exclu du parti qu'il avait fondé. Malgré tout, la famille Le Pen saura se retrouver autour d'un projet politique commun. À la veille du second tour de la présidentielle de 2017, Jean-Marie Le Pen avait ainsi tenu à préciser qu'il voterait bien pour sa fille. Cinq ans plus tard, en 2022, le fondateur du FN affirmait également soutenir Marine Le Pen dans la course à la présidentielle.
La disparition de Jean-Marie Le Pen, qui est venu à plusieurs reprises sur le territoire, notamment en 1985, a suscité des réactions en Calédonie. Écoutez Alain Descombelles, il est le délégué territorial du Rassemblement national.
Tout d'abord, c'était un grand patriote, c'était d'abord un militaire qui, sous un gouvernement socialiste, a fait la guerre en Indochine, puis ensuite l'a fait la guerre en Algérie. C'est qu'après qu'il s'est investi en politique, et d'ailleurs c'était un fervent défenseur de la Calédonie française jusqu'à la fin de ses jours. Donc je pense qu'ensuite l'histoire permettra de constater, certainement avec le temps, qu'il avait raison sur un bon nombre de sujets, notamment sur les problématiques de l'immigration, puisque lui était pour qu'il y ait un véritable contrôle de l'immigration, pour éviter ce que nous vivons aujourd'hui. Donc laissons le temps se faire. Tout état de cause, c'était un homme qui a effectivement, pendant 40 ans, été dans la vie politique, a quand même été au deuxième tour d'une élection présidentielle, ce qui a été d'ailleurs le départ du finalement nouveau Front National qui est devenu Rassemblement National avec Marine Le Pen et qui la porte aujourd'hui aux portes du pouvoir. Donc je pense qu'il aura marqué son époque. C'était un homme sérieux, un père de famille aimé de ses enfants et petits-enfants. C'est pour ça que dans ces moments-là, je ne préfère pas parler des polémiques, mais plutôt d'apporter toutes nos condoléances à la famille qui aujourd'hui vit un moment difficile et douloureux, comme toute famille, quand on perd un père.
Voilà, l'un des combats, le délégué territorial du Rassemblement national en Calédonie. L'actualité en métropole, ce sont aussi les commémorations en souvenir des attaques terroristes à Paris contre Charlie Hebdo et l'hypercacheur de Montrouge il y a 10 ans. 18 personnes ont été assassinées par les terroristes islamistes, les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly. 12 ont été tués dans les locaux du journal satirique et 4 lors de la prise d'otage dans l'hypercacheur de Montrouge. Sébastien Lecornu présente ses vœux aux armées. Le ministre des Armées a prononcé un discours aux Invalides au cours duquel il a évoqué deux fois la Nouvelle-Calédonie. Pour parler du pont aérien mis en place entre Paris et Nouméa dès le début des émeutes le 13 mai dernier, mais aussi pour évoquer les tentatives de déstabilisation du territoire par des puissances étrangères.
Cette période est marquée avant tout par une activité opérationnelle intense, dans un climat de plus en plus dangereux. Je pense en particulier à nos marins, qui ont affronté d'innombrables attaques de drones et de missiles en mer Rouge dans leur mission de sécurisation maritime. Et bien sûr, à nos aviateurs, qui ont été sollicités pour établir des ponts aériens vers nos outre-mer, tant en Nouvelle-Calédonie que plus récemment à Mayotte. Et dans ce même temps, la Russie et ses soutiens inventent des guerres nouvelles et nous entraînent dans une nouvelle forme de confrontation à laquelle il nous faut faire face résolument. Certaines puissances procèdent à des tentatives ciblées d'ingérence, de récupération et même de déstabilisation, comme l'Azerbaïdjan l'a fait en Nouvelle-Calédonie.
Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Et puis encore un acte de délinquance à Grenoble. Cette fois-ci, il n'est pas lié au trafic de stupéfiants. Il s'agit d'un délit routier. 3 policiers ont été blessés par un automobiliste qui a cherché à se soustraire à un contrôle. Jean-Luc Goujon pour Europe 1.
Cela s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. Une patrouille de police repère un conducteur qui multiplie les infractions, grillant notamment un feu rouge. Ils tentent alors de le contrôler, mais celui-ci démarre en trombe, s'engage alors une course-poursuite à toute vitesse dans les rues de Grenoble, puis sur l'autoroute, explique Brice Gageant du syndicat policier Unité en Isère.
Au fur et à mesure de la progression, l'individu prend de plus en plus de risques.
jusqu'à l'autoroute A480 en contresens, où il fait demi-tour à plusieurs reprises. Donc les collègues ont très vite compris que cet individu n'allait pas s'arrêter, qu'il y avait de potentielles victimes au bout de cette action.
Après une heure de course, les policiers finissent par encercler le véhicule, mais là, le conducteur ne veut toujours pas se laisser arrêter.
L'individu endommage plusieurs véhicules de police en les percutant de manière volontaire. Il cherche à plusieurs reprises à percuter les policiers qui sont soit au sol, et il percute des policiers également dans les véhicules de police, ce qui fait qu'on a trois véhicules gravement endommagés et trois policiers blessés sur l'intervention.
Une détermination incroyable pour cet homme de 27 ans, connu des services de police, mais pour un délit mineur. Aujourd'hui, les délinquants, même petits, ne reculent devant rien pour se soustraire au contrôle, estime Brice Gajan.
D'une infraction banale routière à la base, on en arrive quasiment à la fin à une tentative de meurtre sur un individu qui fonce volontairement sur les forces de police.
Voilà, et l'homme est toujours en garde à vue à l'heure qu'il est.
Il est 11h51, la dernière pause dans ce journal avant de voir l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termite. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite du programme avec le sport, on salue d'abord notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et commençons par le tennis dans cette page sport avec la suite des qualifications à l'Open d'Australie qui est, rappelons-le, la première levée du Grand Chelem de l'année, Lionel.
Oui, aujourd'hui, ce sont 8 Français qui sont sur les courts de Melbourne pour ce deuxième tour de qualification. Nous suivrons notamment chez les dames Kristina Mladenovic, quart de finaliste à Roland-Garros en 2017, quart de finaliste à l'US Open en 2015. Elle jouera ce soir face à la Russe Kudermetova. Autre Française sur les cours aujourd'hui, Léolia Jean-Jean, Selena Janivievic et Carole Monet. Chez les messieurs, après les éliminations hier d'Enzo Cuoco et de Constant Lestienne, qui étaient sur les cours du Wentworth la semaine dernière, nous suivrons Titou Androguet, Terence Atman, Valentin Royer et Clément Schidek. Clément Schidek qui est sur les cours en ce moment même et qui est mené 1-7-0 par le Suisse Kim.
Le point maintenant sur le Vendée Globe. Pas de gros changement. Charlie Dalin est toujours en tête de la flotte.
Le skipper de Massif Santé Prévoyance, qui est un peu moins de 4000 km de l'arrivée au Sable d'Olonne, mène toujours la flotte avec 138 000 nautiques, un peu plus de 220 km d'avance sur Johan Richaume à bord de Paprec Arkea. Sébastien Simon, qui a franchi l'équateur il y a quelques heures à bord de Groupe Dubreuil, est toujours troisième, mais avec plus de 1000 km de retard sur Charlie Dalin. À l'heure où nous parlons, 22 concurrents sur les 35 skippers encore en course ont franchi le Cap Horn et ont donc commencé la grande remontée de l'Atlantique.
Et puis on termine avec du sport mécanique et le Dakar qui se poursuit lui en Arabie Saoudite.
Oui, et l'information de la matinée sur ce rallye raid, c'est que Sébastien Loeb sur Dacia a été contraint à l'abandon a parti en tonneau lors de la dernière spéciale après seulement 12 km parcourus. Le nonuple champion du monde des rallyes a notamment endommagé l'arceau de sécurité de sa voiture. L'inspection des commissaires techniques de la FIA, c'est la Fédération internationale du sport auto, a conduit à son interdiction de départ pour la quatrième étape. Au classement général auto, c'est toujours le Sud-Africain Henk Ledgham sur Toyota qui est en tête. Il devance de 7 minutes le Qatari Nasser Alatia et de 9 minutes le Suédois Mathias Ekström. En moto, l'Australien Daniel Sanders sur KTM est toujours en tête avec 6 minutes et 51 secondes d'avance sur l'Américain Skyler House et 6 minutes 59 sur le Burkinabé Ross Branch.
Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce journal.